Merci. Donc, je m'appelle Lucie Guilbeau, je suis interne en gynécologie obstétrique avec Stéphanie Frieser qui est chef de clinique à la maternité de Trousseau. Nous allons vous parler des modalités et du timing des transfusions in utero itératives. Alors, très bref historique puisqu'on en a déjà parlé ce matin. Donc, vous savez maintenant que les premières transfusions in utero ont eu lieu dans les années 60 et c'est dans les années 80 que les premières transfusions intravasculaires sous contrôle échographique ont été réalisées. En sachant qu'il existe deux techniques, les transfusions in utero directes et les exsanguinotransfusions in utero. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, quelles vont être les indications des transfusions itératives? Dans la grande majorité des cas, il s'agit de fœtus qui sont victimes d'anémie liée à des alloimmunisations, puisque ça représente environ 80% des transfusions itératives, et en grande majorité des alloimmunisations anti-D. Il arrive cependant que des anémies liées à des infections à parvovirus puissent nécessiter plusieurs transfusions au cours de la grossesse. Pour diagnostiquer l'anémie, comme on l'a vu à plusieurs reprises ce matin, on réalise des échographies pour surveiller ces fœtus à risque d'anémie et on suspectera l'anémie sur un pic systolique de vélocité de l'artère cérébrale moyenne fœtale supérieur à 1,5 multiple de la médiane. Mais à chaque fois, le diagnostic sera confirmé lors d'une ponction de sang fœtal qui est réalisée juste avant la transfusion. Juste un petit mot pour que vous ayez une idée du nombre de transfusions qu'on peut réaliser au cours d'une grossesse. Ici, ce sont les chiffres d'une étude que l'on a réalisée à la maternité de Trousseau qui recensait 241 transfusions in utero pour alloimmunisation chez 85 fœtus. Et vous voyez que le nombre de médians de transfusions était de 3 avec un maximum de 7 transfusions au cours de la grossesse. Alors, avant toute transfusion fœtale, une chose extrêmement importante est de préparer le sang que l'on va transfuser au fœtus, parce qu'il faut absolument une stricte compatibilité entre le sang transfusé et le sang maternel. Puisqu'on parle de gestes qui vont être répétés au cours de la grossesse, il y a une forte probabilité de l'apparition d'une nouvelle alloimmunisation si on ne se tient pas à ce préalable. Pour ce faire, on travaille en étroite collaboration avec les laboratoires d'hémobiologie et les équipes de distribution de produits du sang et sont préparés des culots au résultat négatif compatibles avec le phénotype sanguin maternel. Évidemment, ils sont testés pour le VIH, les hépatites virales, le CMV. Ils sont déleucocytés, déplasmatisés, irradiés. Par ailleurs, ces culots vont être concentrés. L'objectif est d'avoir une hématocrite environ à 70%. Pourquoi ? Pour limiter le volume sanguin à transfuser au fœtus, puisqu'on peut être amené à faire des transfusions à des fœtus qui pèsent largement moins de 1 kg. Donc, il est important de réduire au maximum le volume de sang transfusé. Concernant la logistique, il est préférable à notre sens que les patientes qui présentent une alloimmunisation soient vues initialement au sein d'un centre de diagnostic prénatal afin de mettre en place une prise en charge globale de ces patientes au sein d'équipes qui sont entraînées. En revanche, il est vrai que pour des raisons pratiques, la surveillance notamment échographique des fœtus est souvent déléguée car les patientes n'habitent pas forcément dans la région où vont avoir lieu les transfusions. Et donc n'importe quel échographiste entraîné peut surveiller le pic systolique de vélocité et adresser la patiente s'il pense qu'il y a une indication à réaliser une transfusion plutôt que ce qui était prévu initialement. On va avoir des stratégies qui peuvent être différentes en termes de transfusion en fonction du terme de l'âge gestationnel de la grossesse. Il arrive assez rarement à des termes très précoces qu'on soit obligé de réaliser des transfusions intrapéritonéales comme on faisait dans les années 60, mais sous contrôle échographique bien sûr. En revanche, dès 17-18 semaines d'aménorrhée, la taille du cordon ombilical permet de pouvoir faire les transfusions intravasculaires dans la grande majorité des cas. Et quand on arrive vers 34-35 semaines d'aménorrhée, on se pose toujours la question d'une extraction fœtale plutôt que d'une transfusion, même si on a vu tout à l'heure avec Anne Corté que le fait que les fœtus soient transfusés même tardivement peut faciliter les choses dans la période de vie néonatale. Concernant le lieu de réalisation de ces gestes, ils doivent être réalisés dans des conditions d'asepsie stricte, bien évidemment. Et à partir du terme de viabilité fœtale, on va s'installer au bloc opératoire dans des conditions strictement identiques à celles d'une césarienne. Pourquoi ? Pour être prêt à faire une césarienne en urgence si jamais il se passe la moindre complication en père opératoire, à savoir une bradycardie fœtale liée à un hématome ou à une autre complication. On pourra faire la césarienne tout de suite sans perdre aucun délai. Et de la même manière, avant 32 semaines d'aménorrhée, on réalisera les transfusions in utero dans des maternités de niveau 3 afin qu'il y ait sur place un service de réanimation néonatale et que le prématuré puisse être pris en charge dans les meilleures conditions qui soient. Alors là, je vais juste vous passer un petit film pour vous expliquer comment on fait les choses en pratique. Donc nous sommes au bloc opératoire, installés comme pour une césarienne. Tout d'abord, on va préparer tout le matériel. On utilise donc des seringues de vein gauche que l'on relie, des aiguilles de vein gauche que l'on relie à des seringues de 5 ml. Concernant l'équipe, il y a en général deux obstétriciens pour réaliser la ponction. Et au CNRHP, on travaille avec les pédiatres qui sont également habillés en stérile pour transfuser le fœtus. Et côté tête de la patiente, il y a une équipe d'anesthésie qui s'occupe de réaliser les hémocues, mais également qui est présente si jamais il y a besoin d'une anesthésie générale en urgence pour une césarienne en urgence. La première chose que l'on va faire, c'est qu'on va repérer à l'échographie l'insertion chordonale pour savoir où on va devoir piquer pour ponctionner la veine ombilicale. Et on réalise une anesthésie cutanée maternelle à la xylocaïne. La patiente n'est pas anesthésiée sinon. Une fois l'anesthésie cutanée réalisée, on va insérer l'aiguille jusqu'à la veine ombilicale. Donc ici, vous voyez un placenta antérieur. Et on passe l'aiguille en transplacentaire jusqu'à l'insertion chordonale au niveau du placenta, qui est la zone de stabilité la plus importante. Une fois la veine ponctionnée, on va réaliser une ponction de sang fœtal pour confirmer notre anémie à l'aide du dispositif HemoCube, mais ce sera aussi envoyé au laboratoire pour une NFS complète. Et on injecte ensuite un curare au sein de la veine ombilicale pour immobiliser le fœtus, car les fœtus, même s'ils sont en anémie profonde, peuvent bouger, comme on peut le voir sur l'écran, même à 4 g d'hémoglobine, ça n'empêche pas d'être plein de vitalité. On va donc ensuite, une fois le diagnostic confirmé, commencer la transfusion avec le clulot qui aura été préparé préalablement. Et tout au cours de la transfusion, on va d'une part surveiller l'activité cardiaque fœtale grâce à l'échographie et d'autre part surveiller le taux d'hémoglobine en réalisant des hémocues régulièrement jusqu'à ce qu'on atteigne l'hémoglobine terminale désirée. Une fois que le terme de viabilité a atteint chez les fœtus, ces derniers vont être surveillés en salle de naissance à l'aide d'un monitoring cardiaque pendant 2 heures pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'anomalie du rythme et pas d'indication à une extraction fœtale en urgence. Alors, est-ce qu'il vaut mieux réaliser des transfusions in utero ou des exsanguinotransfusions ? Pour essayer de comprendre tout ça, je vais vous exposer les avantages théoriques de l'exsanguinotransfusion. Tout d'abord, la première problématique, c'est quand on transfuse un fœtus sans enlever le sang fœtal, il persiste à un nombre important d'hématies fœtales. Et donc potentiellement, le fait que ces hématies fœtales soient présentes encore dans le sang fœtal peut induire une poursuite de l'hémolyse et donc une récidive plus précoce de l'anémie fœtale. Et on suppose que l'exsanguinotransfusion permet justement d'épurer ces hématies fœtales et potentiellement de diminuer la rapidité de la récidive de l'anémie. Ça, c'est un premier point. Et le second point qui est supposé, c'est que le fait de faire une exsanguinotransfusion permettrait peut-être d'éviter une surcharge volémique fœtale liée à la transfusion in utero simple. Alors, pour répondre à cette question et pour essayer de vérifier ces hypothèses, nous avons mené une étude avec la maternité Jeanne de Flandre à Lille, où sont réalisées exclusivement ou presque des exsanguinotransfusions in utero. Mais on a regardé nos données de 2006 à 2011. Donc, au CNRHP, nous avions 241 transfusions in utero chez 85 fœtus. Et à Lille, ils avaient 87 exsanguinotransfusions chez 36 fœtus. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, la chute de l'hémoglobine par jour au cours de la grossesse n'est absolument pas différente entre les deux groupes. Et le délai entre les deux gestes, mais qui est un critère un petit peu plus arbitraire, on va le voir ensuite, n'était pas différent non plus entre les deux groupes. Ceci nous laisse supposer qu'en termes d'efficacité, finalement, les deux techniques sont tout à fait équivalentes et que les hypothèses physiopathologiques que je vous ai expliquées auparavant ne se vérifient pas. Les deux techniques peuvent être réalisées. On supposait aussi que l'exsanguinotransfusion, qui est un geste un peu plus long, pouvait peut-être causer plus de complications, mais on n'a pas eu de différence non plus sur les risques liés au geste dans ces deux groupes. Cependant, quand on transfuse in utero, il y a évidemment des risques, vous pouvez vous en douter. Alors, comme à chaque fois qu'on réalise un geste in utero, il y a un risque de rupture prématurée des membranes et d'accouchement prématuré lié à la stimulation des contractions utérines. De la même manière, on entre in utero, donc il y a une brèche au niveau des membranes et un risque infectieux avec un risque de chorioamniotite. Le risque de perte fœtale n'est pas nul non plus et différentes causes ont été décrites, soit des complications directement au niveau des vaisseaux du cordon avec des thromboses, des dissections, des hématomes, des vaisseaux du cordon. Il existe aussi des cas d'hématomes rétroplacentaires ou encore d'hémorragie fœto-maternelle. quand on parle de transfusion itérative, il faut bien prendre conscience qu'à chaque fois qu'on va réaliser un geste, le risque est multiplié par le nombre de transfusions qui vont être réalisées au cours de la grossesse. Heureusement, ces risques sont relativement minimes par rapport aux bénéfices apportés. Et ici, vous avez les chiffres du CNRHP de 2006 à 2011, l'étude de Van Kamp, qui est une énorme étude sur 740 transfusions in utero, et les chiffres de Jeanne de Flandre sur 225 exsanguino-transfusions in utero. Vous voyez que le taux de complication varie entre 3 et 8% à chaque procédure. Le taux de perte fœtale est lui autour de 2 à 4%. Ici, on avait 0% de 2006 à 2011, mais c'est biaisé puisque dans une étude parue précédemment en 2008, sur 71 transfusions chez 46 fœtus, on avait également au CNRHP un taux de perte fœtale de 2,8% par procédure. Donc on peut retenir à peu près 2 à 4%. Et on a un taux de survie global qui est relativement bon, autour de 90%. Donc pour finir cette partie, c'est la transfusion in utero est réellement une thérapeutique qui a révolutionné le pronostic de l'anémie fœtale, qui nécessite une équipe entraînée et organisée, bien évidemment. On peut dire que les deux techniques, exsanguino-transfusion et transfusion in utero, sont équivalentes en termes d'efficacité et que les risques sont finalement relativement faibles par rapport aux bénéfices apportés. Et je vais laisser la parole à Stéphanie Frieser qui va nous parler du timing du coût de ces transfusions itératives.